patria, patriarca, 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 patri, patriarca, patri.
Les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and whole.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon au féminin.
Dégenrer l'émission pour
déranger
une émission féministe
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
On ne pouvait plus faire autrement. Dans les usines, les syndicats et les patrons décidaient seuls, sans tenir compte des revendications ouvrières. Et la répression de l'État était intenable. Il y avait deux solutions possibles. La première, rentrer chez soi. On laisse tomber, parce qu'on croit que l'adversaire est invincible. Ou alors, on essaie de faire face. Qui ne terrorise pas, meurt terrorisé. C'était donc une citation de « Do you remember Revolution ?» Donc un film sur des femmes qui sont engagées dans la lutte armée en Italie, donc à la fin des années 60, durant les années 70 aussi. Voilà, donc notamment des Brigades Rouges et puis aussi de l'Ota Continua.
Bonsoir, alors vous écoutez Dégenré, donc l'émission féministe sur Radio Kaleidoscope. Et ce soir, c'est une émission sur justement des femmes dans des mouvements de lutte armée qu'on peut appeler anti-impérialistes, anti-capitalistes, ou qui peuvent se réclamer par exemple du communisme libertaire, des mouvements autonomes. Donc dans les années 70-80, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Alors ça nous intéressait de parler de ce sujet pour différentes raisons. Bah déjà parce que c'est des luttes que le pouvoir d'État cherche à réduire au silence, à invisibiliser en fait, que ce soit par la répression, par la prison, aussi par le chantage au repentir hein, pour les personnes qui ont participé à ces luttes et qui sont par exemple incarcérées ou menacées de d'être réincarcérées par exemple. Donc invisibilisées par l'effacement historique. Ou bien par la stigmatisation, parce que du coup ces personnes seraient comme des dangereux terroristes illuminés Et à aucun moment, on va parler de leurs revendications, du contexte historique et des luttes de l'époque. Et puis, ça, cette façon de l'invisibiliser dans l'histoire ou de stigmatiser ces luttes, c'est aussi un moyen de faire taire les révoltes actuelles, en fait. Donc voilà, c'est aussi une résonance actuellement. Donc déjà, nous, pour commencer, on parlera pas de terrorisme, parce que le mot terrorisme, déjà, c'est l'État. En fait, c'est les gouvernements qui décident d'apposer ce terme. Et du coup, ça va changer selon le moment, selon l'État, qui est qualifié de terroriste ou pas. Pour donner un exemple, par exemple, les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale étaient qualifiés de terroristes par le pouvoir de l'époque.
Ouais, par Vichy et le régime nazi, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors que maintenant, c'est des glorieux résistants.
Voilà, donc... le mot terroriste, c'est toujours un truc qui est quand même complètement subjectif et qui va être décidé par le pouvoir d'État. Nous, on va plutôt parler de contre-violence, par exemple, d'action directe, d'actes de résistance, que ça soit à l'impérialisme, au capitalisme, au patriarcat, ou aussi de résistance au terrorisme d'État. Parce qu'on peut aussi parler de terrorisme d'État, c'est-à-dire que l'État emploie aussi des méthodes de peur sur les populations pour faire taire les révoltes, pour faire taire les luttes. Alors ça peut être la peur de la crise, comme actuellement, la peur du chômage, la peur de perdre son travail, de se retrouver à la rue, la peur de se faire expulser, la peur de la prison, la peur des amendes. Enfin, c'est aussi quelque chose qui peut être employé par l'État pour faire peur aux populations, faire taire les luttes. Et puis, on avait aussi envie d'aborder ce sujet d'un point de vue féministe, parce que les femmes qu'emploient des actions dites violentes contre des oppressions sont soit invisibilisées, on ne parle pas d'elles, soit stigmatisées, parce qu'elles remettent en cause les stéréotypes genrés, les stéréotypes hommes-femmes. Aux femmes, ça serait associé la douceur, donner la vie, etc. Donc, elles transgressent vraiment les normes de genre. Et puis, souvent, on va parler des femmes dans les luttes, plus en tant que mère de, sœur de, femme et compagne de, et comme rattachées à des hommes. Et on va pas parler de leur motivation propre de militante à s'engager dans des luttes. Ou alors... là, on va plus mettre en avant les femmes, c'est qu'on va plus leur associer le pacifisme, les actions non violentes, etc., comme étant des types d'actions, on va dire, typiquement féminines. Donc il y a ce phénomène, en fait, d'invisibilisation qui se met en place. Et nous, on a voulu voir un peu c'était quoi les discours, justement, sur les femmes qui transgressent et la légalité, l'ordre établi, et les stéréotypes sexistes. Dans cette idée, pour commencer, on va d'abord vous passer une interview de Fanny Bunion qui a été faite à partir d'un texte qu'elle a écrit qui s'appelle « Quand le militantisme fait le choix des armes, les femmes d'action directe et les médias ». Donc il va un peu étudier justement ce discours médiatique, judiciaire qui a été fait sur ces femmes. Si vous voulez trouver le texte en entier, il est disponible en brochure et c'est téléchargeable sur infokiosque.net. Alors infokiosque.net, ça s'écrit infokiosque.net. Et voilà, donc on va commencer par cette interview et bonne écoute.
Alors bonjour, moi je m'appelle Fanny Bunion, je suis en fait en train de terminer ma thèse d'histoire, je fais une thèse d'histoire des femmes et je travaille sur la question de la violence politique commise par des femmes en Europe au XXe siècle et sur la réception et le discours social autour de cette pratique de la violence pour des raisons politiques par des femmes. Je me suis intéressée à des femmes qui sont engagées dans des groupes, qui ont participé à des actions violentes pour des groupes qu'on appelle, entre guillemets, la terminologie policière, terroristes révolutionnaires ou anti-impérialistes, enfin, des gens qui se situent dans le recours à la lutte armée pour des raisons anti-impérialistes, une analyse anti-impérialiste. Certains parlent d'extrême gauche. Enfin, voilà, des femmes qui ont fait partie d'organisations de cette nature-là, comme en France, l'action directe, ou en Allemagne, la fraction Armée Rouge, le mouvement du 2 juin, les Rotos de Zora, ou en Espagne, les Grapos, qui s'appellent les groupes révolutionnaires armés du 1er octobre. Voilà. En fait, je me suis beaucoup intéressée à la manière dont les médias, les différents types de médias en France, que ce soit des médias d'information considérés comme sérieux ou des médias populaires qui ont un grand tirage et qui sont très, très, très diffusés, très accessibles à toutes les classes sociales. Je me suis intéressée à eux parce que le fait que des femmes se soient impliquées dans un groupe comme Action Directe, ça a énormément marqué, notamment parce que plusieurs femmes ont été poursuivies et condamnées pour avoir commis des attentats, des assassinats politiques. Et du coup, je voulais un petit peu regarder si, dans quelle mesure, en fait, le discours de ces médias était sexué et qu'est-ce qui se jouait sur la manière, dans la manière, en tout cas, dont on parle de la violence commise par des femmes. Est-ce qu'on en parle de la même manière que la violence commise par des hommes? Et la réponse est non. Donc, du coup, dans les années 70, il y a eu plusieurs personnes à titre individuel, comme dans le mouvement autonome, ou des petites organisations qui se sont aussi constituées et qui ont pratiqué des attentats, des plastiquages, des braquages, des actions d'autofinancement. Ça pouvait être des groupes comme la gauche prolétarienne, avec ce qu'on a appelé sa branche armée, la NRP, la Nouvelle Résistance Populaire, qui a par exemple enlevé des cadres de Renault et séquestré des cadres de Renault, ou un autre groupe comme les NAPAP, c'est les noyaux armés pour l'autonomie populaire. Enfin, il y a tout un contexte, en fait, assez fort, et c'est un peu dans la filiation de ces groupes des années 70 que va naître et se structurer Action Directe, qui est au départ une espèce de nébuleuse de personnes qui décident de recourir à la violence au nom d'un projet politique. Donc, voilà. Alors en fait, le fait qu'il y ait des femmes dans cette organisation et dans d'autres organisations à l'échelle de l'Europe, c'est quelque chose qui marque énormément les contemporains, parce que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de nouveau. Alors la violence, enfin les femmes ont toujours à plusieurs reprises participé à des épisodes révolutionnaires, que ce soit la Commune, la Révolution française, la Révolution de 1848, enfin toute une série d'épisodes révolutionnaires. Après, ou des lignées d'Auguste Rus, par exemple, aussi à la fin du 19e siècle, qui vont par exemple assassiner le tsar. Enfin, il y a plein, en fait, d'événements comme ça. Mais en général, dans l'histoire, on a tendance à les considérer comme quelques figures isolées, qui sont assez peu reconnues. Et là, le fait que dans les années 60, il y ait de manière collective une réappropriation de la violence, ça interroge beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de femmes, et ça c'est perçu comme quelque chose de nouveau et en lien avec les évolutions sociales de l'époque, et notamment avec le féminisme. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans les médias et même dans le discours policier. En Allemagne, par exemple, dans les consignes qu'on donnait aux policiers quand ils étaient sur des affaires pour essayer d'arrêter les dangereux malfaiteurs de la fraction Armée Rouge, s'ils se trouvaient face à un groupe dans lequel il y avait une femme, on conseillait aux policiers de d'abord neutraliser la femme, parce que c'est elle qui risquait d'être la plus dangereuse. Neutraliser, ça veut dire qu'il faut d'abord tirer sur elle, en fait. Le fait que des femmes décident de prendre les armes, c'est une transgression énorme, parce que historiquement, la violence a été considérée comme un bastion exclusivement réservé aux hommes, que ce soit la violence légale, avec, je sais pas, la question de la police, de l'armée, où par exemple, il y avait que les hommes qui avaient le droit de faire leur service militaire, ou la violence illégale. Que ce soit légal ou pas, cette violence, et en particulier la violence armée, elle est pensée comme réservé uniquement aux hommes. Et ça, c'est quelque chose, il y a beaucoup d'anthropologues qui ont travaillé sur la question, notamment Paola Tabet, sur c'est le titre de son livre La construction sociale de l'inégalité des sexes, sur la question de l'enjeu du contrôle des armes et du pouvoir que donne le fait de pouvoir maîtriser des armes, c'est-à-dire de pouvoir se défendre et attaquer. Alors, il y a un phénomène très clair d'invisibilisation de la violence commise par des femmes dans l'histoire. On a parfois quelques figures mythologiques qui sont utilisées, type les Amazones, comme figures repoussoires, ou même la figure des pétroleuses, donc des femmes qu'on a accusées d'avoir mis le feu, créé des incendies au moment de la Commune de Paris. C'est des figures qui sont utilisées comme des espèces de monstres, des trucs repoussoirs, les furies, enfin, j'en sais pas, des femmes femmes, c'est pas des êtres humains, c'est un peu une espèce de, des espèces de créatures un peu monstrueuses. Et ça, c'est des figures qui sont utilisées quand invisibiliser la violence des femmes, c'est plus possible parce qu'elle est tellement visible, flagrante et revendiquée qu'on ne peut pas la passer sous silence. Après, dans l'histoire, il y a aussi eu énormément d'invisibilisation et c'est vrai que la question du rôle des femmes et des activités des femmes pendant la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale en France, par exemple, c'est assez clair. Donc effectivement, il y a un double mouvement par rapport à la question de la violence et de l'accès aux armes. Et l'accès aux armes, c'est vraiment un point de cristallisation très très fort entre invisibiliser ou montrer, mais de manière monstrueuse, en les considérant comme autre chose que des femmes. Donc. La question du lien entre des mouvements de lutte armée anti-impérialiste et la question du féminisme, les rapports entre ces deux questions-là, on ne peut pas faire de généralité, ça dépend vraiment, vraiment des groupes. Si on prend par exemple le cas d'un pays comme l'Italie, il y a des liens très très forts qui sont faits par des femmes de différents groupes. Il y avait des groupes uniquement constitués de femmes également, des cellules ponctuelles constituées uniquement de femmes. Il y a des liens très très forts qui sont faits avec le féminisme. Bah, ça peut se traduire en termes d'action par le fait d'attaquer la voiture d'un gynécologue catholique qui refuse de pratiquer des avortements et qui est dans le déni total du contrôle du corps des femmes par elles-mêmes. Il y a eu des choses de ce type en Allemagne où l'articulation avec le féminisme a aussi été pensée sur la problématique de l'émancipation et s'émanciper du patriarcat et s'émanciper du capitalisme. Dans d'autres groupes, comme par exemple les GRAPO, les groupes révolutionnaires armés du 1er octobre, qui sont un groupe espagnol qui n'est pas très très connu en France, qui est un groupe qui s'est constitué en 1975, qui officiellement ne s'est pas autodissous aujourd'hui, mais qui depuis 2004 n'est plus actif en raison de vagues d'arrestations énormes. Et c'est un groupe qui a quand même commis une centaine d'assassinats. Au départ, c'est un groupe qui est né sous Franco hein, et qui a continué la lutte armée en estimant que c'est pas parce que la dictature était officiellement tombée, qu'il n'y avait plus de fascistes et d'impérialistes au pouvoir, et bien un groupe comme les Grapos a une approche très marxiste, orthodoxe, on va dire, des choses, en effectivement parlant du patriarcat et de l'oppression des femmes exercée par les hommes, mais en considérant qu'en luttant contre le capitalisme et contre l'impérialisme, et bien par effet domino, le patriarcat disparaîtra, et donc ils ont par exemple rédiger des brochures sur la femme dans la lutte armée ou la femme dans la culture clandestine et où il n'y a pas vraiment de remise en question de l'organisation du mouvement et de la question du sexisme ou de la domination masculine qui peut avoir lieu au sein de ces groupes qui sont bien... Enfin, ces groupes ne sont pas du tout à l'abri, loin de là, de reproduire de la domination masculine. Donc ça, vraiment, le lien entre lutte armée et féminisme, ça dépend vraiment des organisations. Pour parler de la participation des femmes à un mouvement, moi je parle, ce que j'utilise, c'est forcément des femmes qui ont été identifiées, donc qui ont été confrontées d'une manière ou d'une autre à la répression, donc il y a forcément une part aussi d'invisible, hein, et ça j'en ai tout à fait conscience. Les groupes dont j'ai pu parler, comme les GRAPO, Action Directe, la Fraction Armée Rouge ou d'autres mouvements en Italie, pour ces groupes là, les personnes qui ont été poursuivies pour leurs activités au sein de ces groupes, c'est entre un quart et la moitié des personnes poursuivies qui étaient des femmes. Donc il y a une présence absolument massive. Si on pense par exemple aux affiches de la police allemande qui étaient affichées partout dans les rues, des affiches avec des photos en fait des personnes qui étaient recherchées, comme souvent le qualificatif qui était imposé au-dessus, c'était on recherche des terroristes anarchistes. La moitié des photos des personnes qui étaient recherchées étaient des femmes. Donc il y avait vraiment une visibilité. Et les femmes qui ont pu être arrêtées et condamnées au nom des activités qu'elles ont eues dans ces groupes, souvent ont revendiqué le fait d'être des femmes et de participer à la lutte armée au même titre que des hommes, d'être des militants d'une cause. fait, il y a deux grandes tendances si on veut essayer de schématiser la manière dont la justice et les médias abordent justement la question de l'engagement féminin dans des groupes violents. La première tendance, c'est de relativiser cet engagement. Alors, en général, donc relativiser cet engagement, ça passe souvent par le fait de dire « Non mais ces femmes, elles étaient amoureuses d'un homme et aveuglées par l'amour, elles l'ont suivi, il l'a embrigadé, c'est pas du tout parce qu'elles avaient des convictions politiques, elles étaient sous influence d'un homme. » Donc c'est aussi une manière là de leur dénouer toute capacité d'autonomie. Je peux par exemple citer un extrait du Monde, juste au lendemain en fait de l'arrestation de Jean-Marc Rouillon, Nathalie Ménigon, Joël Aubron et Georges Cipriani en février 1987, on a alors des grands articles qui reviennent justement sur ce groupe, qui dressent des portraits, allant interviewer plein de gens, les anciennes maîtresses d'école, etc., pour essayer de déceler déjà quelque chose d'un peu bizarre et déviant dans leur comportement. Et voici ce qu'on peut lire par exemple donc dans Le Monde en février 87 à propos de Nathalie Ménigon. Alors, elle y croit, elle a 20 ans en 77, fille d'une famille d'ouvriers de la région parisienne, elle travaille dans une grande banque où elle est très proche de la CFDT qui finira par exclure avec fracas ses autonomes. Elle milite à la revue Camarade, laquelle puise abondamment son inspiration à Rome, Milan et Padoue. Cela n'est pas inconciliable avec Rouillan, mais Rouillan va lui offrir en prime l'action et ses mystères. Un couple est né, le 18 mars 1980, elle et lui mitraillent en plein jour et comme à la parade le ministère de la coopération. Et pour Le Figaro par exemple, on insiste vraiment sur cette figure du couple entre Nathalie Ménigon et Jean-Marc Rouillan, on les appelle le couple fou du terrorisme français. On va le retrouver pour plein d'autres femmes, quel qu'ait pu être leur degré d'engagement dans l'organisation et quelles qu'aient pu être les actions qu'elles ont commises et qu'elles ont revendiquées. Très souvent, les femmes sont présentées comme étant la femme de, la compagne de, qui est venue à l'action politique violente par l'entremise d'un homme avec lequel elles étaient en relation affective. Donc, alors ça, parfois, cette figure de l'amoureuse, elle n'est pas forcément éloignée de la réalité. Hein. Il y a des femmes pour qui, effectivement, ça peut être le cas, ou en tout cas, ça va être leur ligne de défense aussi face à la justice. Mais c'est quelque chose, par contre, qu'on retrouve absolument pas pour les hommes. Il n'est jamais question d'homme sous influence d'une femme amoureuse, etc., qui va la suivre dans l'engagement. Ce fait de relativiser par les sentiments, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière transversale dans l'ensemble des journaux, que ce soit la presse populaire type Paris Match, ou des journaux considérés comme sérieux comme Le Monde, ou des journaux d'opinion de droite comme Le Figaro ou L'Humanité, le journal du Parti communiste. Donc on va excuser par les sentiments, on va aussi du coup vouloir réaffirmer la différence sexuelle, et donc en essayant, alors ça c'est assez marrant, il y a notamment un article du Monde qui s'appelle « Du sang et des confitures » où Edoui Plenel, donc, qui est journaliste au Monde, qui est un ancien membre de la LCR par ailleurs, et ça c'est intéressant de voir en termes de trajectoire qui parle et comment on parle, mais Edoui Plenel va écrire un grand article dans lequel il essaye de reconstituer un petit peu la vie en clandestinité, et donc de dire que Nathalie Ménigon et Joël Aubron faisait des confitures et faisait pousser des tomates dans le jardin pendant que les hommes rédigeaient des tracts et construisaient une prison populaire. Enfin, il y a ce truc, voilà, de vouloir réaffirmer la différence sexuelle où il y aurait des qualités spécifiques à un sexe et que, même si là, avec le fait que des femmes se soient engagées, elles sont dans la transgression totale, on essaye de vouloir les réassigner un certain nombre de choses. Et il y a une chose qui va être assez intéressante, c'est que lors d'un procès d'action directe en 1988, il y a des experts psychiatres qui viennent apporter leur expertise. Et ce qui est repris dans la presse, en fait, c'est un expert psychiatre qui explique d'où vient ce sentiment d'injustice et de révolte chez certaines femmes, notamment en expliquant que Nathalie Ménigon, si elle s'est révoltée, si elle était habitée par ce sentiment d'injustice et si ensuite elle est passée à la lutte armée, c'est parce qu'elle a connu l'injustice petite fille dans sa famille, parce qu'elle devait faire la vaisselle, alors que son petit frère n'avait pas à la faire. Donc là, du coup, elle aurait, avec cette inégalité devant les tâches ménagères, pris conscience de ce sentiment d'injustice, ou alors des filles qui sont en conflit avec leur père, avec la figure de l'autorité. Enfin bon, il y a des discours psy qui sont assez...
Ça ferait beaucoup de femmes potentielles dans la lutte armée.
Eh bien finalement, oui, si on considère que le fait d'avoir dû faire la vaisselle ou d'avoir passé l'aspirateur quand on était une fille et qu'on avait un frère qui ne devait pas faire ce même type de tâches, effectivement, les mouvements de lutte armée
fermée pourrait recruter beaucoup, beaucoup de personnes. Enfin, il y a ce truc, voilà, de vouloir rappeler une espèce de dichotomie traditionnelle entre les femmes et les hommes. Et c'est vrai que le truc sur... Enfin, je vais lire en fait un extrait du Monde au moment d'un autre procès d'Action Directe en 1993, puisqu'il y a eu plusieurs procès sur différents dossiers, où donc le Monde s'intéresse beaucoup à cette vie clandestine et s'interroge aussi de la manière dont ces femmes pouvaient vivre et ce qu'il faut en déduire. Alors, c'est ça qui est écrit donc dans le Monde en 93. Mais que déduire du soin apporté par Nathalie Ménigon, ancienne salariée de la BNP, à nourrir convenablement ses deux chèvres, ses quatre chats et ses 15 hamsters dans son petit paradis retranché de vitriologe. Et que conclure à propos de son compagnon Jean-Marc Rouillant veillant sur la prison du peuple aménagée à quelques pas de l'enclos de sa Marie-Antoinette. La remarque vaut tout autant pour Joël Aubron, échappé de la bonne bourgeoisie et appliqué dans les moments tranquilles à surveiller ses chaudrons de confiture. Ça peut faire sourire, c'est dans Le Monde, donc un journal considéré comme extrêmement sérieux, et pourtant on retrouve ce genre de propos, donc c'est une manière d'essayer de réassigner de manière sexuée des femmes qui se sont posées en égale en termes d'engagement et de pratiques militantes avec des hommes. Donc on a ce truc de relativiser, excuser par les sentiments et puis réaffirmer une dichotomie sexuelle. Pour la police, la justice et les médias, il y a besoin d'avoir des repères assez nets. Hein. Le fait qu'un mouvement puisse être une nébuleuse plus ou moins horizontale, ça leur pose énormément de problèmes. Donc il y a besoin d'essayer de reconstituer une hiérarchie avec un chef, un cerveau et puis des lieutenants, des bras droits, des bras gauches, des bras dans le dos. Enfin, il y a vraiment ce truc de dire le cerveau. C'est Jean-Marc Rouillant. Il y a sa compagne qui est son égérie. Et puis il y a des gens à côté qui sont... Mais voilà, il y a ce truc d'essayer de reproduire un truc pyramidal. Et oui, Jean-Marc Rouillant veille sur la prison du peuple pendant que sa compagne, Nathalie Ménigon, s'occupe de sa petite ménagerie comme Marie-Antoinette avait aménagé dans les jardins du château de Versailles le petit Trianon dans lequel elle s'amusait à jouer à la fermière. Enfin, il y a vraiment du coup une manière... Enfin, ça vise de toute façon à la dépolitiser totalement et c'est assez net. Et la deuxième grande tendance qu'on retrouve dans les médias, quel qu'il soit, en plus de relativiser l'engagement des femmes, c'est le fait de stigmatiser. La stigmatisation, c'est quelque chose qu'on va retrouver lorsque la violence commise par des femmes ne peut plus être invisibilisée. Comme par exemple quand des femmes vont assassiner un homme, c'est par exemple le cas du patron de Renault, Georges Besse, qui va être assassiné par deux femmes, Nathalie Ménigon et Joël Aubron, avec des pistolets, quand il rentre chez lui un soir en novembre 1986. Elles ont agi à visage découvert, donc elles ont été très très rapidement identifiées, et donc dès que des femmes sont impliquées dans des crimes de sang, là la stigmatisation va marcher à plein, et cette stigmatisation ça va permettre de les placer un petit peu hors nomenclature, c'est-à-dire ce sont pas des femmes, c'est autre chose, parce qu'elles sont sur une forme de transgression à plusieurs échelles. D'abord la question de l'accès aux armes, ensuite le fait qu'elles aient tué une personne, alors que voilà, dans les représentations hyper stéréotypées qu'on a, les femmes c'est la douceur, les femmes elles donnent la vie, etc. Et alors parfois, cette manière de les stigmatiser, ça va être de parler d'elles au masculin. En fait, des fois on parle d'elles au féminin, puis des fois on parle d'elles au masculin. Par exemple, il y a François qui va titrer Nathalie Ménigon, le vrai patron. On va parler d'elles comme des dirigeants historiques, des guérilleros, et puis parfois on parle d'elles au féminin. Ce sont des Amazones, ce sont des passionnariats, enfin toutes sortes de choses à ce niveau-là. Et par exemple, pour la police, le fait que des femmes soient mêlées justement à ces affaires de violence, c'est bien la preuve qu'on est face à un groupe politique. C'est-à-dire que la police explique, par exemple, quand il y a un braquage auquel participent des personnes sont identifiées comme étant des femmes, pour la police, ça veut dire que, ah non, mais c'est pas un groupe de voyous, c'est pas des truands, parce que les truands, c'est toujours des hommes, et ils mêlent pas des femmes à ce genre de choses. Par contre, les gauchistes qui font des opérations d'autofinancement et de braquage, il y a souvent des femmes, et en général, d'ailleurs, les hommes utilisent les femmes un peu comme une couverture. Enfin, c'est ce qu'on trouve dans la presse. Donc, s'il y a des femmes, c'est que ce sont des groupes gauchistes. Et en fait, le fait que des femmes aient pu, par exemple, recourir à des crimes de sang, commettre des assassinats, ça dérange énormément. Et alors, que ce soit les journalistes, les policiers ou les juges, ils insistent sur le fait, mais quand même, ces femmes, elles ont l'air tellement féminines. Elles sourient, elles ont des visages tellement angéliques. Et à côté de ça, ce sont des meurtrières sanguinaires, ce sont des folles. Enfin, il y a un truc de blâme social qui est très très fort à l'encontre des femmes, qui est quelque chose qu'on retrouve pas en direction des hommes, parce que ces femmes-là, en plus de tuer quelqu'un, de transgresser la loi pénale, etc., elles transgressent les normes sociales, et en tuant des gens, c'est comme si elles étaient en train de dénaturer les femmes. Enfin, il y a cette idée, voilà, très très nette, les femmes donnent la vie, etc. Et pas les hommes. Et ce truc de discours sur la dénaturation des femmes, c'est quelque chose qu'on a retrouvé, par contre, historiquement, et sous la Révolution française, et aussi beaucoup les militantes nihilistes russes étaient aussi énormément confrontées à ce blâme social de dénaturation des femmes. Les femmes, effectivement, on est beaucoup plus, en tout cas dans les journaux et dans le discours de la justice, sur des questions morales. On va chercher dans leur vie privée des indices de perversion supposée. Je pense notamment au fait que Paris Match va publier, et pour des femmes d'Action Directe et pour des femmes de la fraction Armée Rouge, des photos d'elles nues qui ont été prises, qu'elles ont pu faire poser nues pour des travaux artistiques, faire des photos érotiques ou des choses comme ça, et c'est des photos qui vont être utilisées et publiées notamment dans Paris Match pour montrer, oui, regardez, c'est bien, hein, ces photos montrent qu'elle menait une existence déréglée, qu'elle était déjà, enfin qu'il y a tout un vocabulaire autour de la perversion. Et c'est assez drôle parce que le fait que ces journaux aient publié des photos de ces femmes nues, alors il n'y a pas d'équivalent masculin, pourtant je pense que les hommes aussi peuvent poser nus pour les beaux-arts ou des choses comme ça, mais en tout cas visiblement c'est beaucoup moins intéressant de les montrer, peut-être ça fait aussi moins vendre, hein. Il y a peut-être aussi un petit peu de ça. Paris Match va publier des photos de Gudrun Enslin, donc qui est l'une des membres très actives de la fraction Armée Rouge dans les années 70. Des photos d'elle nue, avec voilà, tout un discours sur la décadence, la perversion des mœurs. L'article est titré « Gudrun passe du porno à la révolte », donc il y a une espèce de décadence liée à la sexualité qui mène vers des actions politiques considérées comme décadentes. Et c'est assez intéressant de voir qu'en France, il y a des groupes féministes qui vont réutiliser cette photo pour justement et attaquer de manière très virulente Paris Match sur le fait qu'ils aient publié ces photos nues, que c'est quelque chose d'extrêmement humiliant, etc. Et donc des groupes féministes vont reprendre cette photo de Gudrun Enslin en apposant dessus un texte: nous déclarons l'état de grossesse permanent pour donner naissance à tout ce qui vous fera peur. Et puis ça se termine avec la phrase « Parce que notre désir profond est d'ébranler votre ordre ». Donc c'est assez intéressant de voir du coup qu'il y a eu une action de solidarité de la part de groupes féministes sur le fait que des journaux publient des photos de ces militantes nues pour les décrédibiliser, les humilier. Donc ces femmes, oui, alors elles peuvent avoir eu une sexualité perverse, elles peuvent collectionner les amants, peut-être même qu'elles ont eu des aventures avec des femmes. Enfin, il y a plein de trucs comme ça sur la perversion. Un exemple, par exemple, de dire que ces femmes, elles peuvent être perverses, il va y avoir une ambiguïté et tout un emballement médiatique autour d'une erreur en fait, d'une compréhension d'un mot. C'est-à-dire que au moment où Georges Besse, le patron de Renault, a été assassiné en rentrant chez lui, Nathalie Ménigon et Joël Lombard ont pris sa serviette en cuir, son cartable qu'il avait à la main, et ce cartable a ensuite été retrouvé au moment de leur arrestation en février 1987, et la presse va comprendre qu'en fait Nathalie Ménigon était une affreuse sadique qui donnait à manger au hamster des morceaux de cette serviette en cuir. Alors qu'en fait, il n'était pas du tout question de donner au hamster cette serviette, des morceaux de cette serviette, mais plutôt, elle s'était fabriqué un holster, et un holster, en fait, c'est un étui dans lequel on glisse une arme. Et donc, il y a eu un emballement médiatique très très fort là-dessus, sur cette confusion phonétique, avec le truc du goût du sensationnel, genre oui, non mais en plus, elle est vraiment sans cœur et totalement perverse. Donc cette histoire de la perversion, c'est très drôle, on va avoir plein de trucs genre sur le sexe des anges de la terreur, les tigresses des BR, le terrorisme, c'est l'empire des femmes. Et du coup, il va y avoir une connexion qui va être faite assez rapidement pour plusieurs médias entre le féminisme et le fait que des femmes soient impliquées dans des mouvements politiques violents. Et on va considérer l'engagement politique violent des femmes comme une preuve des excès du féminisme. On va avoir des articles, c'est les femmes sont passées de la cuisine à la mitraillette, le terrorisme comme excès du féminisme. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi être beaucoup souligné. Et c'est assez marrant de voir qu'il y a cette thèse du coup de relier l'action politique violente au féminisme pour disqualifier le féminisme et de dire que le féminisme va trop loin. Et ça, bon, c'est une constante dans l'histoire d'avoir des discours réactionnaires au féminisme et de dire que le féminisme va trop loin, parce qu'en fait, pour un certain nombre de personnes, en particulier pour des hommes qui veulent pas renoncer à leur pouvoir et à leurs privilèges, le féminisme va toujours trop loin. Il y a toujours cette théorie de l'excès, que l'ordre social est ébranlé, et que si le féminisme a pointé et s'est attaqué aux inégalités et au patriarcat, eh bien, il a un peu ébranlé et détruit l'ordre social. Et la preuve que l'ordre social et le chaos menacent, c'est bien que le fait que des femmes puissent s'engager dans ces groupes violents, donc c'est aussi une manière de les stigmatiser. Et du coup, elles sont pas des femmes. Les Amazones aussi sont considérées comme n'étant pas des femmes. Elles se coupent un sein, elles tuent leur fils, etc. Et ben, on va retrouver des allusions à la figure de l'Amazone très très nette. Ce qui est intéressant, c'est de voir que qu'on relativise ou qu'on stigmatise, d'une manière générale, ça concourt à complètement dépolitiser et à se désintéresser des motivations politiques de ces femmes. On n'en parle pas et on se soucie absolument pas de ce qu'elles elle revendique. Il n'y a pas d'espace d'expression et de visibilisation de leur justification, qu'elles en donnent ou qu'elles n'en donnent pas. C'est quelque chose qui est impensable, inentendable, et donc c'est une manière de signifier leur incompétence et leur illégitimité sur le terrain de cette transgression et de la loi symbolique et de la loi pénale. Peut-être que ce que je pourrais dire d'une manière générale, c'est que dans la presse, de toute façon, que ce soit des hommes ou des femmes, le recours à la violence politique s'est disqualifié. Hein, et surtout dans les années 60, enfin 80, autant dans la fin des années 60, au début des années 70, pouvait y avoir un peu d'espace pour qu'on puisse entendre les revendications et le fait que des gens décident de passer à l'action illégale et violente. Et dans les années 80, c'est quelque chose de complètement disqualifié. C'est genre, bon, bah oui, non, mais vous êtes gentil, en 68, vous vous êtes amusé, etc. Mais maintenant, la récréation est terminée. Enfin, tous ces idéaux, toutes ces utopies, faut en faire deuil, c'est fini. Et les personnes qui continuent sont un peu des espèces d'attardés qui veulent pas grandir, des enfants qui veulent pas grandir, qui veulent pas se rendre compte de la réalité telle qu'elle est. Donc, de toute façon, le recours à la violence politique, vu qu'elle est illégale, elle est systématiquement disqualifiée. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est que on disqualifie absolument pas de la même manière le recours à la violence pour des hommes et pour des femmes. On n'est pas du tout sur les mêmes registres, parce que pour les femmes, il y a une double disqualification qui se joue parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles transgressent les normes sexuées, en plus de transgresser les normes légales.
Alors bonsoir, vous écoutez bien Dégenré, l'émission pour déranger, sur Radio Kaléidoscope 97FM à Grenoble, et c'est toujours l'émission sur des femmes dans la lutte armée.
Et le montage qu'on vient d'écouter, donc sur la vision des femmes dans la lutte armée dans les médias, était entrecoupé d'extraits d'un morceau de Gunfire Shot, qui est un morceau sur Ulrike Meinhof, en fait... qui reprend des textes qu'elle a écrits dans son journal quand elle était en prison.
Et peut-être pour préciser que Ulrike Meinhof, c'est une femme qui a été, alors j'aurais pas dire de bêtises, alors qui s'est investie dans des mouvements de lutte armée dans la RAF,
oui, dans la
en
RAF,
Allemagne,
en fait.
Voilà, qui était donc un mouvement de lutte armée où il y a eu différentes femmes, voilà, qui ont été visibles, voilà, aussi parce que voilà, parce qu'elles sont beaucoup investies, elles ont diffusé beaucoup de réflexions politiques, etc. quoi.
Ouais, donc dans la fraction Armée Rouge, et pour le coup Ulrike Meinhof, en plus d'avoir une réflexion donc anti-impérialiste, anti-capitaliste, avait aussi vraiment une vision féministe qu'on retrouve dans différents de ses textes, aussi dans des films auxquels elle a participé, etc.
Voilà, et du coup, ça nous semblait intéressant aussi cette idée, voilà, de rendre visible un peu les revendications politiques que portaient ces femmes, que voilà, ce choix stratégique à un moment qu'elles ont pu faire de la lutte armée, ça avait voilà un sens politique. Du coup, j'avais envie de vous lire une autre citation, donc toujours issue de Do You Remember Revolution, donc avec une personne donc investie dans les Brigades Rouges en Italie, qui dit. Nous étions en 1968. Je sentais que j'avais énormément de chance. Je pouvais faire passer tout mon mécontentement, toutes mes tentatives manquées de briser l'inertie, la mort de l'âme, dans une situation qui était explosive et qui impliquait le monde entier. Les revendications des opprimés, toutes les servitudes possibles, tant sur le plan matériel, spirituel que culturel, les conflits de génération, les problèmes des femmes, pouvaient finalement être affrontés et peut-être même éliminés. Voilà, donc je trouve que ça montre bien comment, à un moment, c'est vraiment des objectifs de changements radicaux de société, en fait, qu'ont poussé ces femmes à faire ces choix. Et du coup, on avait envie, pour la suite, de donner la parole donc, à une personne qui s'exprime en langue française, ce qui facilite les choses, donc, qui est donc Joëlle Aubron, qui a fait partie d'Action Directe.
Et alors, cette citation, ces extraits sont issus d'un documentaire qui s'appelle « Retour sur mon parcours militant, entretien avec Joëlle Aubron », qui a été réalisé en 2005. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Joëlle Aubron venait juste d'être libérée, enfin, sa peine venait d'être suspendue pour cause de maladie, qu'elle avait une tumeur au cerveau, et elle est décédée à peu près 2 ans plus tard, le 1er mars 2006.
Et du coup, sa peine a été suspendue parce qu'il y a eu des très fortes mobilisations de soutien.
Oui, pour la faire sortir. Et on peut penser qu'en effet, elle est aussi décédée parce que l'administration pénitentiaire, l'État, a mis super longtemps à accéder à sa demande de suspension de peine.
Ouais, puis je pense dans l'entretien, on vous en reparlait un peu après, c'est quoi leurs conditions de détention. Et voilà, quoi, c'est des personnes qui ont passé 20 ans, 25 ans en prison. Et au niveau des conséquences que ça peut avoir, soit sur la santé mentale, soit sur la santé physique, c'est vraiment l'angoisse, quoi. Mmh.
Donc avant de donner la parole à Joëlle Aubron, qui est malheureusement décédée, on va s'écouter un petit morceau.
On va s'écouter un petit morceau de Dominique Grange, donc une chanteuse au texte engagé, qui a fait partie de mouvements maoïstes, entre autres de la gauche prolétarienne, donc dans les années 70, qui milite actuellement à la CNT, donc la Confédération Nationale du Travail, donc un syndicat anarchiste. Et elle s'est engagée, entre autres, pour faire respecter le droit d'asile, par exemple, qui avait été accordé aux anciens militants des Brigades Rouges, et qui est complètement remis en cause actuellement, mais c'est pareil, on vous en parlera plus tard. Et aussi pour la libération des membres d'Action Directe. Alors le morceau qu'on va passer, qui s'appelle « Toujours rebelle, toujours debout », c'est directement en soutien pour la libération des membres d'Action Directe. Ça fait partie d'une compilation qui a été sortie en 2005, donc une compilation entière de soutien à Action Directe. On va s'écouter ce morceau avant l'interview de Joëlle Aubron.
Depuis qu'ils vous ont mis dedans, on n'a pas vu le temps passer. 20 ans déjà, mon fils aîné et ma fille, 18 printemps. De ces années, qu'avons-nous fait? Pouvons-nous bien vous en dire? Nous avons vu les murs tomber, nous en avons laissé construire. Depuis qu'ils vous ont enfermé, nous n'avons pas gagné grand-chose. Pour l'avenir des justes causes qui toujours nous ont rassemblés, nous étions si sûrs de la voir à l'horizon comme un soleil. La révolution, notre espoir, que rien ne serait plus pareil. Depuis qu'ils vous gardent reclus, ils ont voulu qu'on vous oublie, qu'on vous isole ou qu'on vous tue par le silence ou la folie. Et ceux qui hurlent avec les loups vous ont condamné à leur tour, et leurs larmes sur votre cou, c'est la mort lente au fil des jours. Depuis qu'on mise au banc de ce qui fait aimer la vie, jusqu'à vous enterrer vivant pour mieux jouir de votre agonie. Certains vous clouent au pilori, les belles âmes, les repentis, qui jadis criaient haut et fort, pouvoir est au bout du fusil. Régis, Joël et Nathalie, Jean-Marc et Georges, d'autres aussi, humiliés, battus ou malades, vous avez tenu camarades. Depuis 20 ans, vos lourdes chaînes n'auront pas eu raison de vous, et bientôt au bout de vos peines, toujours rebelles, toujours debout, vous sortirez de leur pouvoir. C'est votre droit et notre espoir.
C'est un peu la spécificité pour moi de cette période, c'est qu'il y a plein de choses de disponibles. Comme je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, je veux dire, dans la vie, je voulais surtout pas, je veux dire, me faire le parcours classique des jeunes filles choisies qui vont à l'université où elles rencontrent leur futur mari. Ben moi, j'insiste pas et je vais dans la vie active. Et à partir de là, forcément, ça veut dire aussi je quitte chez mes parents. Donc je me retrouve, je veux dire, à chercher des endroits, il faut que je travaille, il faut que j'ai un domicile. Et dans ce cadre-là, bah, comme c'est même à l'époque, c'était pas évident de trouver des apparts sur Paris, donc je me retrouve dans les immeubles occupés de Belleville. C'est là où il y a tout l'intérêt cette vie politique autour de l'autonomie. Parce que l'idée des squats, c'est l'idée de vivre autrement, d'organiser un autre quotidien. Et c'est là où ça rompt aussi, sans doute, avec les pratiques des organisations d'extrême gauche, où c'était beaucoup plus séparé, où il y avait d'un côté l'organisation en tant que telle, et puis d'un autre côté, ma vie privée, etc. Là, c'est beaucoup plus mêlé. C'est un truc que, de mon point de vue, on a... je veux dire que l'autonomie a pris du féminisme, et c'est plutôt un bien. Ça vient de là, ça vient aussi en partie des situs, dire de l'histoire situ, où justement il y a une revendication de faire ça. Mais bon, celles qui l'ont un peu plus pratiqué que justement les situs, c'est bien les féministes. Qui mettent l'idée de mettre en œuvre, tu vois, pas simplement d'afficher une position, mais de la mettre en œuvre et d'en faire une réalité, quoi. Donc sur cet arrière-fond, dans l'État français même, c'est un moment, là aussi énormément de luttes, les restructurations contre la classe ouvrière sont en route, quoi, c'est-à-dire ce rouleau compresseur est lancé. Donc ça va, contre la sidérurgie, des usines qui ferment, des licenciements de masse. Il y a l'histoire de vouloir implanter un super générateur à Creys-Malville. Donc le super générateur, ça veut dire à la fois la possibilité de créer du plutonium qui sert donc au nucléaire, et en même temps, c'est l'idée qui est au cœur de l'énergie nucléaire, c'est super outil de contrôle, de sûreté, et donc d'augmentation de l'exploitation. Donc ça, c'est aussi un objectif de lutte. Il y a aussi des trucs contre les sex shops. Il y a des trucs organisés, petits groupes de femmes dans la pratique de l'autonomie qui font des descentes sur des sex shops, sur des cinémas porno. Mais il y avait beaucoup de pratiques de ce genre-là, c'est-à-dire que c'est aussi une des caractéristiques de l'autonomie d'avoir ces actions illégales où ça va de casser les vitrines d'une agence d'intérim, d'un truc à faire un truc dans un supermarché très, c'est-à-dire on rentre, on sort, je veux dire tout le monde, je veux dire voit qu'on est en train de, on voit qu'on vole quoi. Les objets d'aliénation de cette société, je veux dire, sont l'objet d'attaque. Mais en même temps, il peut y avoir aussi, et plus à la limite proche de la légalité, avec l'idée de, voilà, on se fait voir en train d'occuper tel ou tel lieu parce qu'on estime que c'est juste, je veux dire, de marquer ce territoire à ce moment-là par rapport à une lutte, et aussi les luttes contre les prisons, pour dire non seulement le rejet de l'ordre capitaliste, mais qu'il y a autre chose qui est possible. Nous sommes arrêtés en 21 février et nous sommes incarcérés le 26 dans différents quartiers d'isolement, sauf Nathalie et moi qui sommes dans le même quartier d'isolement, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la D11R. Et les conditions qui vont être créées au cours des mois dans cette D11R étaient des conditions qui n'avaient jamais été faites dans cette division. C'est-à-dire au fur et à mesure des mois, la division se vide, et quand en décembre 1987, nous commençons notre première grève de la faim pour le regroupement politique et contre l'isolement. Nous sommes, Nathalie et moi, seules dans cette division, avec de temps en temps des filles qui passent. Et là, à ce moment-là, juste au 1er décembre 1987, nous avons chacune une folle dans la division, dans la cellule à côté de la nôtre. C'est un détail qui a son importance dans la mesure où il y a plein de places dans la division, mais on en a chacune une, et en particulier, je me rappelle très très bien de celle de Nathalie, qui était loin, mais qui avait des crises d'angoisse, qui se mettait à hurler. Moi, j'entendais Nathalie qui lui parlait, qui lui disait « Mais attends, quand tu sens venir la crise, parle-moi !» Et la fille n'avait rien à faire, ça parlait, et quand ça partait, et quand, je veux dire, comme ça, on est à l'isolement, on est quand même... sous tension, on a quelqu'un à côté de soi qui éclate, c'est très 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 difficile. Nathalie et moi, ils nous ont toujours laissés dans la même section d'isolement parce qu'en fait, avoir deux gestions de femmes, comme ils n'avaient jamais fait ça à des femmes, ce qu'ils faisaient, c'était compliqué pour eux, parce que c'est lourd, hein, je veux dire, pour l'administration pénitentiaire, quand ils gèrent des gens comme ça, bah pour eux, ça veut dire, je veux dire, un déploiement hyper compliqué. Alors déjà en plus, ils avaient viré les autres militantes politiques de la D11R, les autres militantes proches d'Action Directe, ils les avaient virées. Donc multiplier ce genre de traitement, pour les femmes, c'était ingérable. Les cours de promenade à la D11R, c'est deux fois une cellule. Donc ça fait 18 mètres carrés, avec ben voilà, un étage de mur. Bon, donc, alors pour nous, ils avaient rajouté un grillage au-dessus, machin. Il y avait deux petits carrés d'herbe, mais des petits trucs, mais bon, dans 18 mètres carrés, quoi. Et en fait, ils vont bétonner ces petits carrés d'herbe, parce que des fois que, je sais pas, on fasse de la subversion avec les herbes, je sais pas. Non, c'était... bon, donc, alors ça, c'était le dispositif des cours de promenade. On sortait normalement, alternativement... Alors, on avait les cellules et la cour de promenade, c'était... On sortait dans la cour de promenade qui était en face. Donc, on sortait pas dans la même cour de promenade. Pouvait arriver, parce que là ça devient vraiment caricatural, que juste à l'horaire auquel j'étais dans la cour de promenade, Nathalie était appelée au parloir avocat. Alors dans ce cas-là, je rentrais dans ma cellule, Nathalie passait et je ressortais dans la cour de promenade. Parce que on aurait pu se voir. Donc c'était pas bien du tout qu'on puisse se voir.
Thank you.
et donc du coup vous écoutez toujours Dégenré, l'émission pour déranger. Alors là on a entendu une interview de Joëlle Aubron, on entend que, qu'elle évoque ses conditions de détention, et du coup oui c'est ça, c'est que ces membres d'Action Directe, ils ont écopé de peines très très longues, souvent avec des peines de sûreté de 19-20 ans. Et alors ces dernières années, il y en a plusieurs qui sont sortis de prison. Alors donc bah il y a Joëlle Aubron dont on a parlé, qui est, dont la peine a été suspendue en 2004 pour raison de santé, mais en gros qui était qui sont plus ou moins fait sortir pour qu'elle meure à l'extérieur de la prison. Et du coup c'est assez trash. Il y a Nathalie Ménigon à qui un régime de semi-liberté est accordé en 2007. Du coup la semi-liberté c'est vous sortez travailler pendant la journée et vous rentrez dormir en prison. Et elle a obtenu la libération conditionnelle le 2 août 2008. Il y a Régis Schlecher qui a, à qui on a accordé un régime de semi-liberté le 23 juillet 2009.
Donc c'est vraiment tout récent.
Ouais, c'est vraiment tout récent, c'est ces dernières années. Et alors il y a le cas de Jean-Marc Fouillon qui a obtenu la semi-liberté le 17 décembre 2007. Mais cette semi-liberté a été révoquée en octobre 2008 parce qu'il avait tenu des propos pendant une interview qu'il avait donnée à l'Express où il disait à demi-mot ne pas regretter ses actions. Et bah voilà, c'est le chantage de l'État au repentir où si tu regrettes pas tes actions, bah tu retournes en prison, quoi, même si, c'est, si ça fait 20 ans que ça s'est passé. Et...
C'est ça, et même on demande plutôt d'être hypocrite.
Et alors il y a aussi Georges Cipriani à qui, alors lui, il a été libéré tout récemment. Mais pareil, c'est régime de semi-liberté, et c'était en avril 2010, du coup après 24 ans de prison quand même. Et lui, c'était un bon exemple de, des conséquences que le régime d'isolement peut avoir sur les détenus, parce qu'il a passé de nombreuses années en régime d'isolement total, comme les autres membres d'Action Directe, puis partiel, et puis il a été envoyé en unité pour malades difficiles dans un hôpital psychiatrique à Villejuif en 1993. Parce que voilà, le régime d'isolement total, ça, ça a entre autres des conséquences sur la santé mentale. Alors, bah, si vous voulez le soutenir aussi, il y a une, du coup, notamment Jean-Marc Rouillon qui est retourné en prison. Il y a des actions de soutien pour demander sa libération. Alors, le, si jamais vous nous écoutez sur Internet et que vous êtes dans la région de Toulouse, ce soir à 19h, c'est-à-dire plus ou moins maintenant, il y a une projection débat de deux films à la librairie La Renaissance, un à Les Saint-Marc. Elle est Marc 500 à Toulouse, donc l'entrée est libre. Et le 5 juin à 15h, il y a un rassemblement devant la prison de Muret à Toulouse pour donc exiger la libération de Yann-Marc Rouillon. Et on peut aussi parler dans la série de la situation actuelle pour ces militants anti-impérialistes, anti-capitalistes qui ont recours à la lutte armée. Bah, de ce qui s'est passé en France, du coup, dans les années 80. Même plus précisément en 85, après l'élection de Mitterrand. Mitterrand a mis en place ce qu'on va appeler plus tard la doctrine Mitterrand, qui permettait aux anciens activistes italiens poursuivis dans leur pays, genre des membres des Brigades Rouges et d'autres groupes de... dans ce style-là, de pouvoir vivre tranquillement en France, à condition d'avoir rompu avec la violence et la lutte armée. Du coup, c'était plus ou moins un contrat de... entre les membres des Brigades Rouges et d'autres groupes et le gouvernement français, qui faisait un peu un geste en leur direction en leur permettant d'échapper à des lourdes peines de prison qui risquaient en Italie. Sauf que vu que la donne politique a changé ces dernières années, en fait ça a été complètement remis en cause, cette doctrine Mitterrand. Et du coup là il y a une douzaine de personnes d'anciens militants italiens qui risquent l'extradition. Et bah, ceux dont on a le plus entendu parler, c'est l'écrivain Cesare Battisti, qui est condamné à perpétuité en Italie pour son implication dans 4 meurtres pour la période de 78-79, et qui était réfugié en France où il était devenu écrivain, et qui est maintenant réfugié au Brésil, pays qui pour l'instant refuse de l'extrader. Et il y avait aussi le cas de Marina Petreia, qui, suite à la pression de la sœur de Carla Bruni.
Ouais, enfin, en fait, il y a eu plein de... Enfin, je pense pas que ça soit vraiment juste ça. Il y a aussi eu des tonnes de mobilisations, en fait, ouais, contre les extraditions. Et après, il y a des gens qui sont plus des stars dont on parle plus. Mais ce qui est important, c'est plus de voir les luttes contre les extraditions.
Ouais.
sachant qu'il y a quand même des personnes qui ont été extradées, en fait. Et que, aussi, un des trucs, c'est que il y a plusieurs personnes qui ont été jugées, en fait, en Italie, alors qu'ils n'étaient pas là, là, ce qu'on appelle un jugement par contumace, je crois. Et qui, du coup, les peines qui sont, c'est pour des jugements où ils n'étaient pas là, donc ils n'ont pas pu avoir de défense. Et normalement, ben, selon, par exemple, je sais pas, la Cour européenne, des trucs comme ça, en fait, tu peux pas... retourner justement par exemple en prison à perpète pour un jugement qui a été fait à une certaine époque où en fait t'étais même pas là pour pouvoir te défendre quoi. Mais voilà, et l'Italie demande quand même extradition quoi, ouais. Et de réenfermer ces gens à perpète.
Ouais. Et du coup, bah, si vous voulez vous en savoir plus...
Ouais, on vous conseille d'écouter sur Radio Kaléidoscope l'émission Les murs ont des oreilles, qui est une émission sur les luttes anticarcérales. Voilà, donc où on, à la fois donc il y a des analyses, etc., mais il est question de ce qui se passe pour les prisonnières et prisonniers actuellement, etc. Et du coup, c'est les troisièmes mercredis du mois, de 18h30 à 19h30. Ça doit être rediffusé aussi, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de Radio Kaléidoscope.
Et alors pour enchaîner, on va écouter un petit morceau de musique. Alors c'est un groupe de grenobloise qui s'appelle les Revengers et c'est un morceau qui s'appelle Bulldozer. Voilà, on va l'écouter.
Coloré. Ça t'a pas plu, tu nous as expulsés. Et t'as tout détruit, 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 et t'as tout détruit. J'ai décidé de devenir respectable, d'avoir un travail salarié, de payer un loyer. Là où je posais ses mains dans tes papiers, t'as coupé les fonds. Sans pognon, ils m'ont licencié. Propriétaire m'a envoyé les huissiers, t'as payé tes flics pour m'expulser. Pendant ce temps-là, je m'étais prise à aimer des gens sympas qui étaient sans papier. C'est en charter qu'ils m'ont expulsé. Et t'as tout détruit, 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 et t'as tout détruit.
Les amis qu'on va plus supporter vont brûler ta maison.
Toujours sur Dégenré, donc, et ce soir, sur des femmes qui ont fait le choix de s'engager dans la lutte armée. Et l'une d'elles dit « Le choix des armes fut douloureux. J'ai considéré ce choix comme une solution de dernier recours. Ça n'a pas été une escalade, comme on l'entend dire, mais plutôt un saut. C'est une chose d'utiliser des cocktails Molotov dans des manifs, c'en est une autre de passer à la lutte armée. Nous n'étions pas vraiment des gens violents. »
Alors, on consacrera plus tard une émission au groupe de lutte armée plus spécifiquement féministe ou au groupe de lutte armée non mixte, carrément. Parce que c'est un sujet assez dur à traiter en 5 minutes et qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps sur cette émission. Mais du coup, nous, on tenait à parler entre autres des Rote Zora, qui était un groupe non mixte de femmes actives en Allemagne de l'Ouest pendant près de 20 ans. Et leur toute première action, par exemple, c'est l'incendie de la cathédrale de Bamberg pour dénoncer le sale rôle de l'Église dans l'oppression des femmes. C'est un incendie qui a lieu en mars 1975. Et leur dernière action aura lieu en 1995, et c'est l'attaque d'un chantier naval à Brême qui fabriquait des bateaux de guerre pour la Turquie. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur ce groupe, en attendant cette prochaine émission, on peut vous recommander la lecture d'un livre qui s'appelle « En catimini, histoire et communiqué des Rote Zora ». Il est un peu dur à se procurer, mais aussi, on peut aussi le consulter sur le site http://encatiminirotozora.wordpress.com. Alors, je peux l'appeler, c'est encatimini, encatiminirotezora.wordpress, wordpress.com. .com. Et voilà, les Rote Zora, donc c'était une émanation des révolutionnaires Zellen, des cellules révolutionnaires. C'était un peu le troisième groupe mixte de lutte anti-impérialiste armée après la fraction Armée Rouge et le mouvement du 2 juin en Allemagne. Et elles restèrent proches des RZ, du coup, de ces cellules révolutionnaires. Elles partageaient d'ailleurs les mêmes initiales, mais elles se démarquaient quand même vraiment d'eux par leur féminisme radical qui faisait partie intégrante de leur lutte et qui n'était pas détachable des autres luttes anti-impérialistes, anti-capitalistes.
Et moi, ce que je trouve très intéressant, quand même, peut-être pour terminer sur les Rote Zora, c'est aussi cette idée de dire, voilà, on a envie de s'organiser entre meufs pour lutter, mais que ce soit sur des questions féministes, comme sur des questions politiques générales, anti-impérialistes, etc. Enfin, dire, en tant que féministe, toutes les questions politiques nous concernent et on a envie d'avoir nos propres stratégies de féministes sur toutes ces questions-là. Je crois que c'est pour ça, ouais, qu'on aurait bien envie d'y consacrer plus de temps.
Et ce qui est hyper intéressant, c'est que bon, ensuite les informations sont assez dures à trouver, mais qu'apparemment il y a eu des groupes de lutte non mixte qui émanaient souvent de groupes de lutte mixte dans plusieurs pays, genre comme en Italie, et qu'on retrouve souvent la revendication même dans les groupes mixtes. De ce féminisme-là qui se détache, ouais, ce que tu disais, qui se détache pas
des préoccupations politiques globales, quoi. Moi, ça donnait envie de citer, je sais pas, par exemple, on a fait une émission, on a hésité ce soir à vous parler aussi, parce qu'il y a, il y a des luttes aussi plus indépendantistes, par exemple, mais justement qui peuvent aussi être souvent liées à des luttes anti-impérialistes. On avait fait une émission sur des femmes kurdes. Alors, vous vous rappelez du nom de leur mouvement?
Bah en fait, c'est des femmes qui font partie à la base du PKK, mais qui ont créé en fait leur propre à l'intérieur, et en lien toujours avec le PKK, hein, parce qu'au niveau d'un certain nombre de choses, des stratégies vont être faites en commun, mais qui ont créé en fait leur propre armée non mixte dans ce truc en fait de pouvoir en fait s'engager dans la lutte armée, etc., en tant que femme, et aussi sur des revendications féministes. Ouais.
Donc je sais qu'en Amérique du Sud aussi, dans les mouvements, notamment dans les mouvements zapatistes, alors c'est encore une autre forme une autre forme de lutte armée, mais clairement, voilà, c'est un mouvement qui a choisi aussi de prendre les armes pour faire passer donc, des revendications politiques. Il y a les femmes aussi qui se sont organisées des fois dans des groupes spécifiques. Enfin, c'est vrai que c'est un phénomène aussi qu'on retrouve dans différentes formes de société. Et voilà, c'est parce que c'est pas pour rien, quoi. C'est parce que c'est y a un terrain de lutte très important à garder, ouais.
Ouais. Et qui est pas détaché des luttes
politiques globales,
plus larges, plus globales. Ouais.
Et peut-être on peut parler de quelques actions des Rotozora pour avoir un peu des idées.
Ouais, des exemples de cibles qu'elles ont pu prendre, parce que c'est vrai qu'à chaque fois elles font un travail de fond, j'ai l'impression, sur les cibles pour toucher là où ça fait mal, cette société capitaliste, impérialiste et tout, quoi.
Ouais, parce que par exemple en Italie, on a entendu parler, je crois, pendant la première interview, il y a eu pas mal d'actions par rapport au droit à l'avortement, par rapport à des gynécos, tout ça, mais du coup ça c'était un des sujets. Mais j'ai l'impression que, par exemple, les Rotozora, elles ont touché aussi à différentes cibles.
Ouais, elles ont aussi attaqué pas mal d'entreprises de biotechnologie aussi dans ce truc de contrôle des naissances qui, pour elles, était une politique de violence à l'égard des femmes. Et aussi, elles ont mené des actions contre des médecins qui pratiquaient des stérilisations forcées, à l'encontre de populations immigrées ou de populations qui ne correspondaient pas à fait des bons enfants allemands. dans leurs premières actions, il y a aussi eu la bombe qui a été déposée devant le tribunal fédéral constitutionnel de Karlsruhe pour réclamer la suppression d'un article de loi qui limitait le droit à l'avortement. Et il y a eu tout un tas d'actions dans ce style-là. Il y a aussi eu des plastiquages ou des incendies de sex-shop, mais là c'est assez compliqué d'en parler parce qu'il faudrait recontextualiser. C'est des actions qui ont eu lieu aussi apparemment en France, qui ont eu lieu aussi au Canada et qui faut replacer dans le contexte aussi forcément, qui n'était pas forcément...
Ouais, peut-être pour quand même résumer, c'est dire que c'est vraiment cette industrie pornographique qui cautionne et qui légitime et tout les violences faites aux femmes, enfin où voilà, on va avoir des viols de femmes, des choses voilà présentées comme hyper un super fantasme pour les mecs, enfin c'est qui véhicule ces images là quoi.
Oui, contre en gros la pornographie patriarcale et sexiste, quoi.
Ouais.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'actions, tu as mentionné rapidement, mais en solidarité aux luttes de femmes dans le monde. Je sais qu'il y avait, par exemple, sur une industrie allemande qui exploitait des femmes. Je crois que c'était en Asie. J'ai l'impression qu'il y avait des fortes grèves dans des usines en Asie, d'une firme allemande. Et du coup, elles ont fait un plastiquage, je pense, dans l'industrie allemande, en solidarité avec ses ouvrières.
Et je crois que ça a eu un résultat, d'ailleurs.
Oui, ça a eu un résultat. Apparemment, c'était un de leurs plus grands succès. C'est qu'ils ont immédiatement accédé aux demandes des ouvrières en grève en Asie, suite à ces attentats-là.
Ouais. Du coup, c'est ça, des belles formes de solidarité internationale.
Oui, puis je trouve que ça montre un peu aussi, en fait, un peu dans tout le débat sur les formes d'action, c'est qu'à un moment, en fait, que ça soit... le pouvoir capitaliste, par exemple, il tue des gens, il les écrase, que ça soit j'en sais rien, moi, des licenciements massifs qui conduisent aussi des personnes au suicide. Hein, je veux dire, c'est un truc qu'on a aussi vu dernièrement. Je sais pas si Joël Aubron, en fait, en parlait par rapport... par exemple le licenciement chez Renault dans les années 80, des trucs comme ça, ou qui vont exploiter des gens dans différents pays. Et sur le fait, par exemple, de recourir à des actions de sabotage, d'explosifs, tout ça, c'est aussi que c'est quoi les moyens qu'on a pour faire pression. Et puis là, par exemple, sur ce genre d'action, on voit que ça a un résultat, alors que ces femmes là elles étaient en grève pendant hyper longtemps. Puis c'est aussi ce truc de faire des actions dans des pays occidentaux, ça a aussi un retentissement un peu autre que juste si ça se passe en Asie, etc. L'opinion elle est pas spécialement alertée là-dessus, et le fait de faire cette action de solidarité, il se trouve que ça a marché, quoi. Mm-hmm.
Tu parlais aussi tout à l'heure, je crois, de, par exemple, sur la question des sex shops et de l'industrie pornographique, qu'il y avait une firme allemande, pareil, qui, suite à des plastiquages et tout, avait retiré les vidéos les plus trash.
Ouais, c'était au Canada, c'était une firme canadienne, une franchise qui distribuait des films porno ultra violents, ultra. Enfin, qui montrait clairement des femmes qui n'étaient pas consentantes. Et du coup, c'était un petit groupe d'action directe qui s'appelait Direct Action dans les années 70, fin 70, début 80, dans lequel il y avait une sorte de sous-section de meufs qui s'appelait Women's Fire Brigade, du coup, les brigades du feu des femmes, et qui ont réalisé entre autres ces incendies de plastiquage, et ça a été hyper efficace. Enfin, les vidéos étaient retirées, la firme a fermé.
Et oui, alors qu'il y avait des associations plus institutionnelles qui protestaient depuis longtemps contre la diffusion de ces vidéos.
Oui, qui écrivaient des lettres, qui faisaient des pétitions, et ça marchait pas. Et d'ailleurs, ces associations ne savaient pas trop comment se positionner, parce qu'elles étaient un peu, elles ne soutenaient pas la violence. Mais en même temps, elles ont vu le résultat qu'au bout, au bout d'une semaine, ça a été d'une efficacité incroyable, ils ont retiré leurs vidéos.
Et du coup, voilà, ça, nous, c'est pas l'objet de l'émission de ce soir, mais en tout cas, ça pose bien cette question de d'où vient la violence, et voilà, est-ce qu'elle vient dans les images de ces femmes voilà, qui sont violées, qui sont pas consentantes, est-ce qu'elle vient dans l'exploitation des ouvrières en Asie ou en Europe ou ailleurs, etc., ou est-ce qu'elle vient voilà, de biens matériels qui sont détruits dans une entreprise la nuit voilà, bon, ça pose aussi ces questions de fond sur les stratégies politiques, quoi.
Oui, puis quand on parle de mort, ça peut être aussi des syndicalistes qui sont tués bizarrement ou qui sont menacés parce que justement ils sont engagés dans des luttes syndicales. Ça se passe par exemple dans différents pays d'Amérique du Sud. Enfin, je pense que ou des destructions de forêts. Enfin. C'est pas juste un mot en l'air, quoi, ce truc de menace de mort qui pèse sur des personnes, quoi.
Ouais, ou
que ce soit des répressions dans des manifestations, comme ça a pu se passer là en Grèce, comme ça a pu se passer à Gênes. Enfin, c'est aussi une réalité, quoi.
Et c'est là qu'on voit aussi que l'histoire se reproduit, parce que par exemple, les femmes là, qui sont investies notamment dans les brigades rouges, tout ça, un des déclencheurs, elles sont plusieurs à le mentionner, c'est un attentat un attentat terroriste, c'est-à-dire que organisé par l'État dans une bijouterie, là en pleine journée, dans les années 70, où il y a eu une dizaine de morts, je crois, et c'était pour discréditer justement les mouvements sociaux, la contestation, etc. Et alors lui, l'État, il a pas lésiné, quoi. Et c'est tuer une douzaine de personnes dans une bijouterie, quoi. C'était pas un souci. Voilà, pour mettre en place ces plans de répression derrière, quoi.
Ouais, puis je crois que ça a été reconnu que vraiment des années plus tard, peut-être dans les années 90, que ça avait été un truc qui avait été fomenté par les fascistes, en fait, et par l'État, justement, pour décrédibiliser le mouvement. Puis je trouve que ça a aussi un peu un rapport... Enfin, c'est aussi même directement en rapport avec ce truc de mettre des gens en tôle à perpète, avec tout ce truc de si vous regrettez pas vos actions passées, si vous n'êtes pas des repentis, si vous continuez de parler, si vous continuez d'avoir des idées politiques et de les exprimer, ben vous risquez de retourner en prison, quoi, comme ce qui est arrivé à Jean-Marc Rouillant. Et que, clairement, ouais, c'est une manière d'écraser et de faire taire. Et puis aussi de faire peur aux populations. Enfin, je veux dire, c'est un peu quand même... ce que vous risquez, c'est de l'atout la vie. Hein. Enfin, voilà, donc on dit la peine de mort, c'est aboli en France. D'un côté, c'est aussi un peu une manière de... le reste de sa vie, on risque de le finir en tôle.
De tuer les gens à petit feu.
C'est une autre manière de tuer les gens, en fait.
Oui, puis il y a d'autres façons de faire de la pression sur... sur les personnes qui s'opposent à la politique du gouvernement. Enfin, il y a la peur de la prison, il y a la répression policière des manifestations, il y a de plus en plus de... Enfin, les manifestations, même les plus banales, tu risques quand même de te prendre des coups de flashball dans le visage et de te faire taiser parce que t'es au mauvais endroit au mauvais moment. Et...
Tout à fait. Du coup, ces idées, je demande de continuer à lutter, à revendiquer des idées politiques et tout. On avait envie de vous passer un morceau d'un groupe qu'on aime bien aussi, qui est, qui est pas loin, c'est un groupe de ouais. Lyon, non ?
Un groupe ouais, qui est entre Lyon et Saint-Étienne, ouais. Du coup un transsanguine, il s'appelle Viscéralement Déviant, et ils font du hip-hop très bien, et c'est un morceau qui s'appelle Insurrection.
13 jours de violence urbaine, le gouvernement recourt aux grands moyens. L'état d'urgence est officiellement décrété.
Sabotage à la SNCF. Ils recherchent des casseurs qui ont brisé une vitrine.
Quelques centaines de jeunes qui sont toujours là et qui apparemment se sont donné le mot et qui sont venus ici pour en découdre avec les forces de l'ordre.
Tous appartiendraient à la mouvance anarchiste des ultras de gauche.
Chaque flic en faction, y'a des frics en action. Un seul mot d'ordre, insurrection. La vengeance est un plat qui se mange froid, qui sait. Peut-être que demain on sera chez toi. Encore une fois expulsé à voir les flics marrer pendant qu'on bouge nos affaires et qu'on rêve de tout foutre en l'air. Avoir la rage au cœur écœuré de ce monde corrompu, écartelé entre la raison et l'envie de leur sauter dessus. Sentir ce bouillonnement intérieur quand on voit ses potes menottés partir pour 24 heures ou plus en GAV. Se faire réveiller à 6h du mat par des keufs cagoulés qui défoncent les portes à coups de bélier et nous mettent leurs flingues sous le nez. Se croient les plus forts, montrons-leur qu'ils ont tort. On n'a pas dit notre dernier mot, on saura les retrouver quand il faut. Pour chaque flic en faction, y'a des frics en action. Un seul mot d'ordre, insurrection. La vengeance est un plat qui se mange froid, qui sait. Peut-être que demain on sera chez toi. Rien ne nous arrête. Plus ils sévissent, plus il y a de nouvelles têtes pour grossir la masse des mécontentes. Emmerder le gouvernement qui tente d'écraser la rébellion. Répression, censure, prison. Combien d'alliés tombés qui font la une du JT. Insurgés, incendiaires, jetés en pâture. Bouc émissaire de cette dictature. Collage, racolage, sabotage, laissons notre rage s'exprimer. Ouvrons les cages de nos imaginations censurées. Écrivons l'histoire à coups de stylo, de flingue, de pied de biche ou de couteau. La lacrymo nous fait pleurer. Quoi de mieux qu'un cocktail pour les faire hurler. Les soldats de l'ordre n'ont qu'à bien se tenir. Le désordre est notre désir.
Lorsque je suis rentrée dans la clandestinité, le contexte était tellement explosif que j'étais convaincue que tout pourrait se régler en quelques années. Cela m'a donné la force de me convaincre que pour ma fille, il était plus important de se trouver face à un monde meilleur, un monde différent, que d'avoir mon affection tous les jours. Voilà, c'était pour un petit peu conclure sur ces questions de lutte armée et de femmes qui sont investies dans ces modes de lutte-là et dire que voilà un peu ce qu'elles pouvaient aussi, ce que des personnes pouvaient avoir derrière la tête en faisant ce choix-là et continuent à travers le monde à faire ce choix-là. Et il me semble important de pouvoir faire entendre ces paroles-là et faire entendre que c'est des stratégies politiques vraiment et qui ont un sens et qui portent des revendications de changement radical de société. Et c'est vrai que quand on voit l'état dramatique de notre société actuellement, on se dit qu'il y a peut-être des stratégies effectivement à réfléchir, quoi.
Notre émission arrive à la fin. Toujours si vous voulez nous contacter aussi pour nous redemander soit nos sources par exemple pour la préparation de l'émission, nous faire des retours, etc. Vous pouvez nous écrire à Dégenré, donc Degenr2e @pimienta pimienta.org. Sinon, on a toujours des émissions qui sont écoutables en ligne sur Indie Media Radio. Puis on voulait vous passer un peu quelques infos de qu'est-ce qui va se passer d'événements un peu féministes prochainement à Grenoble. Alors pour commencer, déjà le samedi 29 mai à 17h30 va y avoir une conférence débat de Michèle Laroui, qui est une militante lesbienne féministe et plasticienne, autour de deux ouvrages auxquels elle a participé, donc un premier qui s'appelle Distil et un deuxième qui s'appelle Mouvement de presse des années 70 à nos jours, lutte féministe et lesbienne. Alors c'est pareil, c'est un peu sur l'intérêt des fois de l'histoire et de connaître notre histoire et de comment ça peut faire résonance aussi sur des luttes actuelles. Donc il y aura aussi une expo donc sur 40 ans de lutte féministe et lesbienne Et tout ça, ça se passe au local de Cigale. Donc Cigale, c'est le... En fait, l'inter-associatif LGBT, donc lesbienne, gay, bi, trans, c'est organisé par les Voix d'Elle, donc l'association des lesbiennes de Grenoble. Et le local de Cigale, il se trouve au 8 rue Sergent Bobillot, donc dans le quartier de l'Aigle. Toujours le samedi 29 mai, il y aura un concert de Lala Bolduc à Antigone. Alors Lala Bolduc, c'est un duo de féminins, de femmes. C'est un peu un concert-spectacle, hein. Il y a un peu toute une mise en scène, c'est, je sais pas comment dire, alors elles disent des chansons crues et toques, c'est vachement des chansons à texte, alors ça va parler aussi bien de leur vie personnelle, de leur râteau, de divers trucs comme ça, des sujets plus durs aussi, avec des super chansons aussi sur pourquoi ne pas manger des animaux. Et donc tout ça, ça se passe à Antigone, donc la librairie qui organise aussi des soirées, qui est 22 rue des Violettes. Alors pour y aller en tram, c'est le tram C, arrêt Docteur Calmette ou Vallier-Catane. Et ça se passe donc à 20h samedi. Et sinon, le dimanche 30 mai, il y aura une projection de film, d'un film lesbien à la Pelletueuse, donc, qui est un squat 16 avenue Jules Vallès. Vous pouvez prendre le tram C, arrêt Flandrin-Valmy. Alors c'est sûrement la dernière soirée de ce squat parce qu'il est malheureusement expulsable à partir du 1er juin. Le film, il s'appelle Unveiled, d'Angelina Macaroni, il date de 2005. Et en gros, ça parle d'une, d'une traductrice iranienne qui est obligée de fuir l'Iran après la découverte par la police de son aventure avec une femme mariée. Et en fait, qui, une fois arrivée en Allemagne, se retrouve enfermée en centre de détention des immigrants. Et voilà, son asile politique lui est refusé, mais elle réussit à s'en échapper. Mais elle va devoir à la fois vivre une existence d'immigrée clandestine, donc travailler au noir, etc. Et aussi en usurpant une identité masculine. Donc voilà, ce film, c'est à 20h et l'ouverture de la soirée se fera à 19h avec aussi des infokiosques, des tables de presse, un bar, un buffet, etc. À la Pelletueuse. Et voilà, on va vous laisser avec un morceau de musique.
Alors oui, on va vous laisser sur, avec un morceau de Vanessa Ashloum, qui est issu d'une compile qui est sortie dans les années 68, qui s'appelait « Pour en finir avec le travail ». Et c'est une, un peu un détournement de la chanson de Jacques Dutronc, « Il est 5h, Paris s'éveille ». Et bah, on va vous laisser écouter ça, vous allez voir.
Que la lutte continue.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel, la chaux au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Toutes les
les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille.